La vie d'après, épisode 4, la fin de l'hiver. Dans la famille de ma mère, il y avait quatre sœurs. Ferial, Siham, Nabila et Anayat. Ferial, l'aînée, est morte en 2013. Dans son agonie, elle a attendu que ma mère retourne au village avant de s'éteindre. C'était un moment très mystérieux dont je parle dans cet article. Deux ans plus tard, en 2015, ce fut le tour de Siham, ma mère. Puis en 2017, je me suis rendu au village, au chevet de ma tante Nabila. Nabila venait d'avoir 71 ans, comme Feriel, comme ma mère. Et toutes trois étaient mortes d'un cancer, à 71 ans. Lorsque ma tante Anéat m'a dit qu'elle avait 69 ans, j'ai pas pu m'empêcher de lui faire cette blague stupide. « Ah, cool, il te reste encore 2 ans. » Elle m'a insulté, on s'est marré, et puis voilà. J'ai jamais trop compris pourquoi je supportais pas ma tante Anayat à mon adolescence. Pourtant, elle était ma nourrice, ma figure d'attachement principale. C'est elle qui m'avait élevé et nourri les deux premières années de ma vie lorsque ma mère m'avait confié à elle, alors que je n'avais encore qu'un mois. Peut-être que je lui en voulais, de m'avoir rendu à mes parents à l'âge de 2 ans, et de m'avoir fait revivre ce sentiment d'abandon. Avec toute la confusion que cela a dû engendrer dans mon esprit d'enfant, de voir réapparaître à 2 ans des parents que je croyais disparus à jamais. En 2015, après la mort de ma mère, devant mon incapacité à accepter son décès, je me suis demandé si j'étais pas en train de rejouer le scénario de cet enfant de 2 ans, qui a fini par croire que même disparu, sa mère pouvait encore revenir. Mais non, les mamans ne reviennent plus. Avec le temps, mes relations avec Anayat s'étaient beaucoup améliorées. Désormais, on parlait régulièrement, on avait même prévu de tourner ensemble plusieurs séquences pour mon nouveau film. C'est par téléphone, un matin d'hiver 2022, que j'ai appris son décès. Un Covid mal diagnostiqué, une insuffisance respiratoire non prise en charge par le médecin du village, un transport dans l'hôpital public de Sorag, dénué d'appareil à oxygène. Et c'est en quarantaine, dans la solitude d'une chambre d'hôtel, que ma tante Anayat s'est éteinte, sans qu'aucun membre de sa famille n'ait le droit de lui rendre visite. C'était comme un mauvais rêve, je n'arrivais pas à y croire. « Papa, pourquoi ça te rend triste, la mort d'Anayat? Tu la voyais à peine une fois par an ?»« Mais je savais qu'elle était là et que je pouvais l'appeler. »« Eh bah, t'as qu'à faire comme si tu savais pas qu'elle était là. »« Je veux dire, tu n'as qu'à faire comme si tu savais pas qu'elle était morte. »« Ça change pas grand-chose à ton quotidien, en fait. » Difficile d'expliquer la mort à une enfant, alors qu'on ne la comprend pas toujours très bien soi-même. Dans mon enfance, les morts, c'était surtout des lettres venues d'Égypte, qui annonçaient des décès de gens dont j'oubliais aussitôt l'existence pour retourner à mes jeux et à mes lectures. Ce n'est qu'au début de ma 5e décennie que j'ai réellement éprouvé le sens de ce que c'était que la mort. J'ai hésité à retourner au village et à faire face à cette terrible réalité. J'y ai retrouvé la maison familiale vide. Et j'ai pleuré. La perte de Anayat qui me laissait désormais orphelin. Elle qui avait joué un rôle si fondateur dans ma vie, sans que je m'en rende compte, alors que je la voyais pourtant si peu. Elle que je croyais sans doute éternelle. Mais non, les mamans ne reviennent plus. Promets-nous que tu reviendras, Namir. T'es chez toi ici, ne l'oublie pas. Et même si plus personne n'habite dans la maison familiale, on la nettoiera régulièrement pour que tu puisses y revenir. Tu reviendras, promis ? J'ai promis, voulant sans doute y croire. Puis j'ai dit au revoir à la maison familiale, et à mes cousins, et à ce passé dont il ne resterait bientôt plus aucune trace, hormis dans ma mémoire vieillissante. À l'approche de mes 50 ans, je me sentais rentré dans un hiver sans fin. Après avoir vu partir les femmes de ma vie. C'était sans compter sur le printemps qui frissonne toujours dans la profondeur dans nos larmes. J'en étais la preuve vivante. Il paraît que c'est en cherchant à consoler ma mère de la perte de son grand-père que mes parents m'ont conçu. Retrouver les habitants du village, pleurer dans leurs bras, visiter les champs, évoquer ma tante et dire au revoir à la maison familiale m'avait fait énormément de bien. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Et au petit matin, j'ai demandé à mes cousins d'acheter 4 arbres fruitiers, un figuier, un goyavier, un manguier et un citronnier, pour Feriel, Siham, Anayat et Nabila. Mes cousins m'ont prévenu. Des arbres fruitiers, mais les gamins du village vont voler tous tes fruits. Je m'en fichais totalement. À vrai dire, j'étais même content de savoir que ces fruits de nos larmes nourriraient d'autres vies et que la mémoire de nos morts rendrait peut-être des enfants heureux. Alors, nous avons mis nos mains dans la terre et nous avons creusé ensemble. Et en guise de sépulture, nous avons planté 4 arbustes dans les champs. Cet été, avec mes enfants, nous retournerons au village et nous verrons s'ils ont donné des fruits.